Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Beno FX. Salut Beno FX.
Salut Elodie.
Comment ça va?
Bah très bien.
Ça se passe bien ce deuxième jour?
Ouais, on est encore en forme. Faut qu'on en profite parce que ça va pas durer.
Et bien pour cette interview, nous accueillons Yann Parovel, entre autres directeur artistique sur de multiples jeux. Bonjour Yann.
Bonjour, bonsoir. On sait plus, avec le manque de lumière là. Mais bonjour, bonjour.
C'est vrai qu'on est un peu dans les souterrains ici.
Mmh. Et dehors il fait beau, c'est dommage.
Ouais,
dehors il fait un temps
très
magnifique.
Beau, ouais. On a profité de la terrasse d'ailleurs, c'est la nouveauté un peu du salon, ils ont ouvert la terrasse de la rotonde, c'est super cool.
Tu veux dire que tu as accès à l'espace extérieur, hein?
Oui.
Le pied.
D'espace extérieur en hauteur, ouais. Pas juste le bord de mer. Tu vois.
Ça vaut vraiment le coup d'aller se ressourcer un peu, faire un peu de vitamine D là-haut.
Respirer l'air des yachts.
Ouais, ou prendre des coups de soleil, hein, parce que quand on a une peau comme la mienne, on prend plutôt des coups de soleil. Avant d'attaquer l'interview, on va commencer par le petit fil rouge traditionnel qu'on pose à tous nos invités pendant Cannes.
Allez.
Le principe, c'est que tu vas nous donner tes as d'or personnels.
Mm-hmm.
Mais ça peut être as d'or overall, hein, pas forcément un truc okay. Juste de cette année. Pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Si je dis Terraforming Mars, je suis pas du tout crédible. Hein.
Tu donnes la réponse que tu veux. Hein.
Ouais, non. Super Lipopex.
Super Lipopex.
Chez Cocktail bien. Games.
C'est enregistré.
Quel est ton as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Super Lipopex.
Ça marche. Quel est ton as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Super Lipopex.
Quel est ton as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de partie?
Ah,
rien, je pense avoir la réponse.
Non, ça ne sera pas celui-là. 3 jours après la fin de partie, Wingspan.
Et alors, tout directeur artistique que tu es, quel est ton as d'or du jeu le plus moche?
C'est nécessairement allemand. Bonanza.
Bonanza, ok. Ben merci.
Je t'en prie.
On avait peur d'avoir le Skyjo à chaque fois, donc on est content d'avoir autre chose que
ouais,
le Skyjo.
Ouais. Mais Skyjo, c'est pas forcément moche, en fait. Enfin, si tu le regardes d'un point de vue. Je sais pas s'il y a une appréciation qui est intéressante, mais en fait, l'appréciation de beau est liée aussi à la facilité de lecture. Il y a des gens qui ont une culture graphique, et il y en a qui n'en ont pas. Et ça, tu peux pas leur en enlever ou leur en inculquer. Tu peux l'amener progressivement, etc. Skyjo, il est moche pour certains d'un point de vue purement esthétique quand tu as une culture graphique. Mais quand tu te contentes d'utiliser le jeu pour ce qu'il est dans son utilisation, il fait largement le taf. Donc il n'est pas forcément moche à ce stade, vu qu'il est lisible en fait. Mmh. Et pour la plupart des gens, ça suffit à rendre un jeu pas forcément beau, hein, mais pas moche.
C'est vrai.
Moi, le fait que les nombres ne soient pas alignés dans les petits arrondis, là, ça me fait bugger.
Ça les trigger,
ouais. Ah ouais, moi je ne peux pas. Je vois ça, je me bloque dessus, je ne sais même plus quel chiffre c'est. Je vois juste que ce n'est pas au milieu.
Je comprends, c'est des troubles d'OCD, mais on en a plein comme ça, et dès que c'est pas aligné, ou une coupe mal faite, etc. Ouais, après, faut accepter. Mais après, le truc aussi, c'est de se poser les questions, c'est pourquoi ça a été fait comme ça? Est-ce qu'il y a l'utilisation de la typo qui est mal... une typo qui est mal conçue? Ça peut arriver, avec un décalage graphique naturel, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas été vu l'impression?
Est-ce que c'est une infographiste qui a fait le truc, tu vois? Ça
peut-être,
être l'auteur.
Alors, en l'occurrence, je crois que c'est l'auteur, hein,
ouais,
pour le coup. Mais il a tout fait. Ce qui est un peu le risque aussi. Mais faut trouver la raison. Et des fois, ça peut être juste assumé juste pour faire chier. Hein. Il y en a qui le font très clairement. Il y a des éditeurs qui font tiens, je vais mettre un petit truc là.
Un petit décalage
et tout. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a un ou deux qui peuvent le faire éventuellement juste pour faire chier, tu vois.
Moi, je me souviens que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de plans, pour des travaux de bâtiments, etc. Et il y avait des projeteurs qui avaient un jeu comme ça, des fois, de cacher des petits dessins, mais minuscules sur un plan, tu vois. Genre, ils mettaient un chameau, mais genre, il fallait vraiment prendre une loupe pour voir le truc. C'est caché dans le truc. Je pense qu'il y en a qui doivent s'amuser à faire des trucs comme ça.
Mais bien sûr, il y a un paquet d'indices visuels qui sont planqués dans les jeux. Alors, c'est toujours difficile de les trouver parce qu'il y a une espèce d'inconsistance entre la vue d'ensemble d'une couverture et des détails sur lesquels il y a des choses à rechercher. Mais par exemple, c'est un truc qui n'a jamais été dit, je crois, mais à l'époque où je travaillais chez Ludonote, le petit logo qui était en bas à droite des jeux qui sont sortis à cette époque-là. Chaque jeu, c'était une constellation. L'organisation des étoiles autour du logo correspondait à une constellation différente qui correspondait au jeu. Okay. Et donc, il faut le savoir, ça.
Il faut regarder vos boîtes de Ludonote entre 2017 et 2020, un truc comme ça.
Entre 2015 et 2000, quelque chose comme ça, ouais. Quand le logo est en bas à droite et tout, et les étoiles ont un emplacement différent, justement parce que c'est une constellation différente.
Ok.
Ouais, c'est le genre de truc qui me passionne.
Ouais, mais alors.
Parce que ma chronique dans Proxy Jeux, c'est autour des illustrations. Du coup, moi, c'est vraiment le genre de choses.
Ouais.
Ça y est, je vais aller voir toutes les. Okay.
Bon Yann, c'est pas la première fois qu'on te reçoit chez Proxy Jeux, hein,
non.
Mais ça commence à faire un petit moment. On t'avait reçu, s'il y en a qui veulent aller écouter ça, pour une interview longue en 2017.
Ouais.
Une interview qui devait faire bien 3
fleuve 3 heures. Heures et demie, ouais.
Et on t'avait reçu justement dans le cadre de ton travail chez Ludonote en 2018 à Des Brezels et des Jeux.
Mmh.
Donc à l'époque, t'avais plutôt cette casquette Ludonote, t'avais parlé de Civ, des mondes de Luma. Depuis, il a dû se passer beaucoup de choses pour toi, et donc t'es là pour nous raconter un peu tout ce que t'as pu faire depuis ce moment-là. Déjà, est-ce que ça va, Yann ?
Moi, ça va très très bien. Le truc, c'est que là, je viens de voir, là, 2017, ça nous fait 10 ans.
Pas loin, on
en approche. Il y a eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de changements. Le marché a changé, les gens ont changé, il y a des nouveaux et des anciens qui partent. Enfin, ça va être compliqué un peu de résumer. Je sais pas jusqu'où tu voulais aller là-dessus, mais en gros, au niveau des détails, on a quand même eu un spiel l'année dernière avec Happy Baobab,
oui,
sur les clés magiques. Spiel enfant, pour lequel on est très content. Ça marche très bien. On arrive à en vendre partout. Enfin, c'est très cool.
Oui, de toute façon, c'est ce qu'on allait dire. Depuis quelques années, on te voit à Cannes beaucoup avec la casquette Happy Baobab, clairement. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu fais avec eux ? Enfin, quel est ton rôle et qu'est-ce que tu fais avec Happy Baobab ?
Alors, avec Happy Baobab, ça fait quoi ? Ça fait presque 17 ans, peut-être un truc comme ça. J'ai les mémoires des dates, je ne suis pas très bon, mais que je fais de la DA chez eux essentiellement. C'est-à-dire qu'en gros, ils me donnent un jeu qu'ils ont signé et ils me demandent de faire l'habillage graphique et éventuellement des additions visuelles sur le jeu. Typiquement, ça peut être une mise en valeur du matériel afin qu'il ressorte mieux sur la table, qu'il ait une meilleure présence, et essayer d'optimiser aussi la session de jeu pour que ça soit un matériel intéressant à manipuler. Ça peut être au niveau de l'ajustement des couleurs pour l'appréciation des différents marchés et les adaptations pour les différents pays. D'ailleurs, sur les clés magiques, on a deux couvertures différentes. On en a une qui a été dessinée par Camilla Perrou, qui est une illustratrice australienne. Et quand je lui ai fait le pitch, je lui ai demandé d'avoir une couverture qui soit un peu asiate, et elle faisait beaucoup de Ghibli. Elle faisait beaucoup de fanart de Ghibli. Et donc elle m'a fait une couverture que je trouvais absolument ravissante et qu'on a utilisée en France avec BlackRock. Et quand on a proposé le jeu aux Allemands, ils nous ont dit « Mais c'est pas possible, ça fait beaucoup trop asiatique. » Attends, je vais faire la carte là, Garfield. Ils m'ont fait « C'est pas possible, ça fait beaucoup trop asiatique. » Et du coup, j'ai dit « D'accord, faites les arrangements qui vous plaisent. » Et le seul truc qu'ils ont touché, ils n'ont rien touché d'autre. Ils ont mis des yeux, mais des yeux comme ils ont sur leur... sur les illustrations de contes allemands, quoi. Je trouve que le rendu est dégueulasse, mais du coup maintenant tout le monde le veut avec cette version là sur les pays germanophones, donc bon, pourquoi pas. Voilà, donc il y a eu ça,
donc Kinderspiel l'année dernière
avec le magique. Avec le DSP aussi de Kinderspiel Price, et après il y a BGA.
Oui, c'est vrai que pour lequel pour BGA aussi,
ouais. Ouais, c'est à dire que quand Greg et Manu ont monté la plateforme il y a un peu plus de 10 ans, on avait pris contact, enfin machin, et je leur disais
bien
qu'il y avait...
Que ce soit racheté par Asmodée.
Ah ouais, largement. Ça a été racheté par Asmodée il y a 3 ans, je crois, maintenant. Le temps passe tellement vite. Et du coup, j'avais dit, le site, c'est dégueulasse, il y a des arrangements qui vont pas, il y a des trucs qui vont pas pour la prise en main et pour la lecture du site, pour simplement comprendre comment ça fonctionne. Et il a commencé à m'écouter, on a commencé à faire des arrangements. Du coup, j'avais emmené aussi le logo, qui est le logo actuel. Toute l'UX qui est en train de changer, le fond en bois qui est en train de disparaître, mais ça prend un temps infini. Et quand ils ont vendu la boîte, moi j'étais le premier employé de BGA et je suis encore là à travailler pour eux.
Et donc on a vu aussi que récemment tu avais travaillé sur la Habana chez Gary et sur Duke chez Okaluda.
Ouais.
Et est-ce que tu peux nous parler du travail sur ces deux jeux ?
Oui, bien sûr. En fait, je continue depuis toutes ces années à travailler ponctuellement sur des projets dès qu'il y a C'était le Dr Mops qui m'avait appelé Graphiste sans frontières, parce qu'en fait les éditeurs qui avaient du mal à trouver ou une orientation graphique ou quelque, enfin quoi que ce soit, ils arrivaient et ils étaient en, ça avait commencé avec avec Sébastien Dujardin, j'allais dire Jean Dujardin.
C'est son cousin.
Ouais, c'est ça. Ça avait commencé avec Jean Dujardin sur Deus, où il avait été mis en galère par des illustrations qui fonctionnaient pas, et on avait dû trouver en express une solution pour qu'avec le matériel qu'on ait, on puisse sortir le jeu pour Essen. Donc on a été, ça a été très rapide. Il y a eu quelques heures d'édition, mais voilà, il y avait un petit peu ce côté sauvetage de dernière minute.
Urgence.
Ouais. Et du coup, c'était Maëva et Christine qui avaient travaillé dessus avec moi. Et on avait pu sauver le projet comme ça au moment. Mais c'est des moments où tu dois faire preuve de beaucoup de créativité et de rigueur en très peu de temps pour être sûr que le projet soit dans les temps. Mais parce que tu as cette envie d'aider l'autre à essayer de boucler son projet. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que du coup, il y a pas mal d'éditeurs qui sont venus me voir ensuite pour ce même type de problème. Et à la base, il faut savoir que il y avait personne dans le monde du jeu qui était spécialisé. Enfin,
dans la direction artistique, c'est pas un truc qui existait de manière formelle, c'est ça?
Ouais, il y a un auteur qui disait que j'étais le premier à faire de la DA en fait sur le marché. Et avec le recul, c'est probablement possible, parce que il y avait personne sur le marché. Enfin, les illustrateurs, c'était il y avait eu beaucoup d'illustrateurs de jeux de rôle en fait qui avaient l'habitude d'être un peu exploités pour faire des jeux. Et le milieu a eu besoin de se professionnaliser, surtout qu'on avait la touche française qui était vraiment importante visuellement et qui commençait à être très influençante au niveau mondial. Donc il y avait besoin de ce up, et il y en a plein qui ont appris par eux-mêmes ou qui ont dû embaucher des gens pour pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Parce qu'il y a tout le travail. En fait, avant, on pensait le jeu comme un... Enfin, je crois... c'est une croyance, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement vrai, mais il y a une. Avant, on voyait le jeu par un produit de passion. Donc, c'est du hobby, on s'entraide, c'est tiens, t'as tel machin. Et un produit de passion, c'est aussi guidé par des envies personnelles, pas forcément des incentives mercantiles. Et le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'arrives avec des besoins de vente, parce qu'on ne parle plus du coup d'ambition d'éditer quelque chose qui nous fait uniquement plaisir, on essaye de l'optimiser, et là du coup t'es obligé un petit peu de te professionnaliser, quoi.
Et tu l'as dit, du coup t'es remonté à Pearl Games avec Sébastien Dujardin, Deus qui était en 2015 je crois.
Ça doit 2014, être ça, la 2015, même année Colt, ouais. Express, ouais.
Ouais. Ouais, c'est ça, 2015.
Ouais.
Et du coup, aujourd'hui, tu disais à l'époque, du coup, il n'y avait pas de DA, etc. Et depuis 2017, même qu'on t'a vu, qu'est-ce qui a un peu évolué dans ton activité et dans le rapport globalement à l'illustration, à la direction artistique des jeux? Est-ce que tu as vu une évolution quand même depuis cette époque? J'imagine que alors, ça a pas mal évolué.
Ouais, clairement, le niveau est clairement bien meilleur. Et par rapport aux autres pays à l'international, on reste vraiment très haut. On a une vraie longueur d'avance. Maintenant, ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, le moindre graphiste qui sort d'école se met le titre de DA, alors que c'est un titre qui doit venir d'une fiche
d'une
de paye.
Enfin,
oui. Un DA freelance, en fait, c'est un graphiste. Hein. Un DA, c'est... en anglais, on dit in-house. C'est un poste que tu occupes au sein. Exactement, c'est un poste que tu occupes au sein d'une équipe, parce que tu as une équipe à gérer. Un DA tout seul, c'est pas un DA, c'est un graphiste. Et c'est pas grave, c'est très bien en fait. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de besoin d'auto-reconnaissance, d'autorité graphique, alors que finalement le terme de graphiste, il y a des graphistes exceptionnels. Enfin, toute l'école de la Bauhaus, qui ont été des maîtres en typographie, etc., ce sont des graphistes, tu vois. Et jamais personne s'est targué DA. Mais je crois que ce qui est trompeur dans le mot DA, c'est directeur, qui en fait n'est pas du tout une responsabilité de chef, mais qui est plutôt une responsabilité de direction, de donner la voix, en tout cas pour donner des intentions au projet qui lui soit propre, qui lui donne une identité. Et on a besoin de direction artistique à partir du moment où on a besoin de développer une particularité identitaire à un projet qui lui permet d'être cohérent, en tout cas à l'instant T, sur le marché, le positionnement du marché, ce qui est recherché, essayer d'être original ou pas d'ailleurs, ça peut faire partie de notre direction artistique, d'être au contraire très consensuel, et de développer toute la typographie qui va avec l'univers, l'icono, etc. Enfin, tout ça va ensemble. Et je pense que du coup, il y a cet aspect un peu galvaudé d'autorité qui va avec, alors que non, non.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret d'un travail, parce que Je pense que nos auditeurs, auditrices, ils voient très bien ce que c'est qu'un illustrateur, une illustratrice. Le travail d'auteur aussi, le travail d'éditeur, déjà, je pense que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais vraiment, le travail de direction artistique, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret d'un travail sur un jeu sur lequel tu as bossé ?
Typiquement, on va prendre les clés magiques. Vu que c'est le dernier et que c'est un best-seller, c'est parfait.
Nickel.
Donc en fait, il y a plusieurs approches et je vais vous expliquer la mienne parce que je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure ou la même que tout le monde fasse. Mais en tout cas, moi, c'est une des façons par lesquelles j'appréhende les jeux parce qu'elle me semble le plus tournée vers l'humain tout en étant respectueux de ce qu'on veut apporter autour de la table selon les intentions de l'auteur. Donc c'est très simple. Sur les clés magiques, je regarde d'abord parmi les gens qui sont autour de la table qui regarde le jeu, qui regarde quoi. Et en l'occurrence, les clés magiques, passer le moment de découverte, une fois que la boîte est ouverte et le jeu est installé, les gens vont regarder surtout les lancers de dés. Donc tu vas bien analyser ça et tu vas essayer de leur expliquer que ce qui est intéressant pour les autres, ce n'est pas les dés, c'est le plateau et la position du pion où il est actuellement. Donc tu vas rendre les dés les plus neutres possibles. Sans les rendre illisibles, tu vas ramener un élément à l'intérieur qui est le chiffre dont tu as besoin. Donc en l'occurrence sur les clés magiques, c'est 1, 2, 3, je crois peut-être un 4, et les lunes. Les lunes doivent être extrêmement visibles, donc elles peuvent être que au centre seul du dé. Donc tu as besoin d'habiller un peu plus les faces qui sont numérotées pour un peu dire aux autres joueurs qui sont autour de la table, ça vous intéresse pas, c'est des valeurs, c'est le joueur actif qui va lire le jeu. Donc toi, tu concentres l'attention sur le plateau au maximum. Pour ce faire, tu choisis l'orientation du feuillage. Donc pour indiquer une espèce de progression dans le jeu qui est verticale, qui va du bas vers le haut, ce qui est antinaturel, mais bon, en l'occurrence, tu lis de bas vers le haut parce qu'on essaie de faire que tu as le jeu tourné vers toi. C'est pour ça qu'on a le château au fond afin de bloquer la vue, histoire d'être sûr que tu as le plateau en face de toi. Et à ce moment-là, tu donnes une lecture verticale en imprimant un dégradé qui va aller du sombre vers la lumière, qui est aussi un sens de lecture logique. Parce que si tu es direct dans la lumière, tu es ébloui, donc tu vas aller vers le sombre. Au contraire, si tu pars du sombre, tu vas aller vers la lumière. Et à partir de là, tu as un déroulement du chemin sur lequel tu vas jouer de dégradé. Mais la grosse difficulté, c'est que si tu veux que ton chemin reste lisible, tout en ayant une belle intégration graphique qui permette d'avoir un peu plus d'immersion, il va falloir jouer avec les contrastes pour avoir des séparations de chemin qui correspondent à ce type. Et là, je parle que de la mise en place, on n'est même pas encore dans les illustrations. Hein. Ensuite, typiquement, les clés magiques venaient sans château au fond, à la base. Le jeu était très plat. Et ce qu'il y a d'intéressant avec à mettre le jeu à l'intérieur de la boîte et à faire jouer au centre de la boîte, c'est que du coup, ça devient une pièce centrale sur laquelle les regards vont se tourner automatiquement. Finalement, tous les éléments de jeu qui sont autour du plateau, il y en a. Hein. Il y a les clés qui sont en joker sur les joueurs, etc. Et le coffre. Mais le coffre, c'est un autre élément qui est à mettre en valeur justement par cette absence d'éléments autour. Donc du coup, le jeu était extrêmement plat. Et moi, j'avais une problématique, c'est que on avait ces clés. Pour expliquer vite fait, dans les clés magiques, quand vous trouvez une clé qui ouvre le coffre, vous la suspendez au château pour montrer que, voilà, parmi ces 5 clés, les 3 qui ouvrent le coffre sont là ou pas encore là. Et elles étaient à la base à plat sur le plateau. Et la problématique principale, c'est que ça ne donnait pas une vue d'ensemble aux joueurs pour pouvoir se dire combien il en reste. Elles étaient en tas, il n'y avait pas de cadre, tu vois. Alors qu'on a quand même que 4 couleurs, enfin 5 avec la clé en or qui ouvre tout le temps. Donc il fallait ordonner la lecture de ça pour donner des indices aux joueurs et avoir un peu plus de pression. Parce que du coup, la pression se dissipait par ce problème de lecture. Donc pour augmenter la pression, je me suis dit, il faut mettre les clés en face des joueurs. Et comment on peut faire ce qui fait le plus sens dans un jeu un peu forêt, mystérieux, etc. C'est toujours un peu le château. Sachant que j'avais très très envie aussi de ne pas en faire un jeu uniquement genré garçon. Pour être sûr d'atteindre une cible un peu plus large. Et du coup, la problématique venait du fait qu'il fallait respecter les coûts de production. Parce que chaque ajout de matériel rajoute quelques centimes qui à la fin font quelques euros et on se retrouvait déjà avec un jeu un peu cher à cause du coffre en plastique etc. Donc du coup voilà, il y a eu cette idée d'occuper le fond de la lecture du plateau, et d'ailleurs sur la nouvelle édition qu'on fait, on va même avoir un visuel en fond de couvercle pour pouvoir le mettre derrière le château, histoire d'avoir vraiment une perspective globale sur la lecture. Et à partir de tous ces éléments là, j'ai cherché une illustratrice. Donc en l'occurrence je suis tombé sur Camilla Perroux, qui me plaisait beaucoup parce qu'elle travaillait du fan art de Ghibli en fait, et son univers me plaisait, les couleurs étaient douces et on pouvait avoir un rendu qui me paraissait suffisamment moderne et vendeur pour que ça puisse fonctionner. Donc ensuite on a longuement échangé sur comment rendre les éléments, et évidemment comme depuis Colt Express je peux pas m'empêcher d'avoir des éléments vertigo dans les boîtes, ouais. Voilà, il a fallu que j'utilise les quelques bouts du punch suffisants en disant allez vas-y fais-moi quelques arbres pour pouvoir les mettre sur le plateau, et dans l'espoir qu'un jour éventuellement il y ait quelque chose qui sort de ces arbres, parce qu'on pourrait avoir une extension qui pourrait se greffer à la place de ces arbres justement pour continuer à valoriser la boîte et le travail qui a été fait.
Ok, non mais c'est intéressant. Du coup, en fait, c'est vraiment, il y a l'objectif, c'est de faire le lien entre, en fait, de faire le lien entre les éléments d'édition et les éléments d'illustration, quoi.
Complètement.
Et je pense que les gens ne saisissent pas bien ça, parce que je pense que pendant longtemps et encore maintenant, peut-être des fois, c'est les illustrateurs qui font ça parce qu'ils font des propositions, ou c'est l'éditeur qui est très directif et qui dit à l'illustrateur ce qu'il veut. Et il y a pas forcément ce travail d'intermédiaire et de réflexion combinée des deux éléments, quoi.
Bien sûr, et la réalité de la direction artistique, elle est là, c'est que t'as pas besoin de DA sur une équipe de trois personnes, parce que les trois personnes vont donner des inputs différents qui vont te permettre de construire une vision d'ensemble qui va porter le jeu. Ça veut pas dire que c'est moins bon, ça veut pas dire que c'est meilleur, ça veut dire que vous êtes trois, vous pouvez échanger entre vous parce que vous êtes en train de
vous arrivez à arrêter
de
ce que
prendre
vous
un
faire,
kiff
quoi.
À faire quelque chose. Faites-vous kiffer. Là où tu commences à avoir vraiment des besoins industriels d'un DA, c'est parce qu'au bout d'un moment, les boîtes sont grosses, il y a beaucoup de projets, et il faut absolument que quelqu'un s'empare de cet aspect visuel. Ça n'implique absolument pas d'implication mécanique. Par exemple, sur les clés magiques, en dehors de l'intégralité des arrangements visuels, choix de taille de boîte, couleur, organisation, etc., je n'ai eu aucune incidence sur la mécanique de jeu.
Oui.
Par contre, des inspirations de la DA peuvent donner des idées en développement, etc. Donc chacun sa responsabilité. Le but, c'est surtout de travailler ensemble le plus intelligemment possible, et de faire des avancées chacun de son côté pour pouvoir rééchanger après. Mais le but, c'est pas non plus de perdre 50 ans à refaire des allers-retours. Il faut croire en son DA, mais comme tu crois en ton game developer, en fait. C'est un moment, c'est ton boulot. Fais-le du mieux que tu peux, et voilà. Et d'ailleurs, tu peux le voir quand il y a des dissonances entre une DA et un gameplay, typiquement un thème qui ne matche pas ou un truc. C'est qu'en général, il y a un problème de communication dans l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais. Ça veut dire qu'il y a
eu un raté. Ils n'ont pas la même vision sur le truc, quoi. Ils ne sont pas réussi à avoir cette direction commune sur le projet, quoi.
Ouais, pas la même vision ou juste pas les mêmes impératifs. Tu sais, parfois en production, malheureusement, t'as tiens, la DA, ben, toi tu vas avoir 6 mois, puis d'un seul coup, merde, on n'a pas fini de caler le jeu et finalement il faut le faire, et du coup il faut finir les graphismes juste derrière. Enfin, ça peut être très compliqué. Et quand il y a des foirages, on a quand même une certaine chance, et j'aime pas faire de patriotisme, mais on a quand même une certaine chance. On a par rapport à l'édition mondiale sur le jeu de société, et c'est pas de la prétention. Parce qu'ils nous envient un peu tous. On a une espèce de d'exigence graphique qui font envier beaucoup de pays, mais qui sont aussi des points de vue de professionnels, parce qu'ils savent très bien que le style français francophone, c'est un peu comme style asiatique. C'est pas toujours facile à réimporter dans d'autres pays, donc il y a souvent des adaptations à faire. Et aujourd'hui, développer un jeu avec un univers graphique fort en fonctionnant dans tous les pays, soit on est extrêmement consensuel, soit ça va être extrêmement compliqué.
Et tu penses que cette spécificité française et cet élitisme graphique dont tu parlais vient de quoi ?
Je crois qu'on a toujours eu une grosse, grosse culture graphique. Ce qui est plutôt étonnant, c'est pourquoi d'autres pays n'ont pas eu ce même bon au même moment. Je pense pas qu'on soit exceptionnel, je pense qu'on a pas mal de chance, mais surtout, moi ce qui me questionne vraiment là-dedans, c'est comment ça se fait que les Allemands, qui ont quand même été numéro un en design pendant des années, avec des écoles prestigieuses en design, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris ce pli là à un moment sur du jeu de société où il y avait la possibilité d'être graphiquement extrêmement fort? Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de produits qui correspondent à ça, mais il y en a eu longtemps, et d'un seul coup, parce qu'il y a eu énormément de produits ludiques, il n'y avait plus personne pour les prendre en charge graphiquement, c'était bizarre. Tout ce qui est Asie aussi, qui a du mal de sortir de son propre marché interne. C'est-à-dire qu'ils font des produits qui sont vraiment faits pour les marchés locaux, mais il n'y a pas eu de vision internationale là-dessus. Il n'y a pas eu beaucoup de prise de risque vis-à-vis des éléments extérieurs. Alors maintenant, ça me fait marrer parce qu'on a quelques jeux maintenant, notamment je crois chez Mandou ou d'autres, où ils utilisent des impressionnistes, etc. dedans, tu te dis... Oui, mais vous pouvez faire un entre-deux, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller à chaque fois dans le cliché complètement. Et c'est peut-être un peu cette chose qu'on a, cette espèce de finesse par notre, par nos avis très tranchés, où on peut dire ça c'est beau, ça c'est pas beau, librement, parce qu'on prend position et ça crée un débat et ça nourrit les réflexions. Et je pense que peut-être qu'on est les seuls qui se prenons la tête autant... À l'échelle individuelle, hein, parce qu'à l'échelle professionnelle, les Américains sont beaucoup plus
carrés.
Carrés ou formatés ou influencés, oui. Mais en tout cas, industriellement, ils savent faire. Par contre, dans les rayons, quand tu regardes ce qui se passe chez Walmart, etc., c'est compliqué. Mais c'est pareil, tout ce qui est culturellement, comme le second degré, on est un des rares pays à l'avoir. Regarde, il y a eu des révolutions au niveau du packaging, des choses qui sont passées pour nous au quotidien complètement normales, mais qui sont des aberrations dans d'autres pays. Alors, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le jeu, mais typiquement, les produits chez Monoprix. Vous avez déjà vu les petites blagues qu'il y a à l'intérieur je sais plus ce qu'il y a, mais...
Un truc un peu à la Michel et Augustin, quoi.
Ouais, c'est genre, quand t'achètes des pâtes, il y a marqué, quand t'achètes du boudin, il y a marqué, tiens, voilà du boudin, tu vois, ou je sais pas, tu vois, ce genre de choses. Ça n'existe pas ailleurs. Donc il y a ce besoin peut-être aussi de créer une connivence avec le produit qui est un peu plus forte que le produit d'auteur, mais je sais pas, c'est un débat qui est un peu sans fin, faudrait être plusieurs de différents pays pour pouvoir avoir un débat là-dessus, mais c'est super intéressant. Moi en tout cas c'est ce qui me passionne.
Ah non, c'est passionnant ça aussi, puis de voir aussi culturellement la différence d'un illustrateur d'un pays à l'autre, etc. Puis même on sent sur la culture graphique, iconographique, enfin tout ça.
Complètement.
C'est passionnant.
Complètement. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que c'était un peu mon espoir il y a quelques années. Je crois qu'on est complètement parti du sujet original, mais c'est plaisir. C'est un vrai plaisir. Le truc qui est bizarre, c'est que je pensais il y a une dizaine d'années qu'au niveau culturel, comme on a quand même... le monde est devenu un énorme village, en fait, hein, depuis qu'il y a Internet, etc. Et tout. Je pensais que niveau culturel, on allait se lisser beaucoup plus vite. Et essayer de trouver des courants. Mais non, chacun essaye de garder quand même une identité locale proche. Et je ne sais pas si c'est bénéfique ou maléfique ou on s'en fout en fait. Mais j'aurais espéré, par exemple, dans mon but pour Happy Baobab, c'était de développer graphiquement des produits qui puissent se vendre dans n'importe quel pays sans avoir besoin de modifications majeures graphiques. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est encore très compliqué.
C'est encore difficile, ouais.
Mais... Là, ils m'ont changé que les yeux sur le canal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que j'arrive à affiner suffisamment maintenant pour faire que le produit soit le plus diffusable mondialement et que les distributeurs se sentent aussi en sécurité en n'ayant pas l'impression de prendre un risque tel. Et je pensais vraiment qu'on allait arriver à une espèce d'hégémonie graphique. Et en fait, non, ça continue à
faire. Garder des spécificités locales. Ouais.
Ouais, complètement locales, mais. J'aurais espéré que ces spécificités locales soient plus marquées, mais non, finalement, c'est resté un petit peu toujours, t'as toujours un style un peu asiatique, alors t'as toujours des différences entre du japonais, du coréen, du chinois, c'est pas exactement pareil, etc. et tout, et j'aurais espéré que ces illustrateurs sortent un peu de leur carcan pour essayer d'aller prendre un petit peu, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque principalement, ce sont de nouveaux styles graphiques. C'est ça un peu le souci.
Oui, c'est dur d'innover, du coup, parce que chacun reste dans son. Un peu dans ton style, quoi.
Il y a ce côté confort, dans le sens où je sais faire, donc je vais faire comme ça. Il y a le côté, et il y a un truc qui est vraiment, je trouve, problématique actuellement, c'est la façon dont on forme les nouveaux artistes, qui est très très formaté, qui est souvent blindé d'exemples hyper caricaturaux. Enfin, on apprend toujours l'anatomie à la manière ancienne, en étudiant toujours des statues gallo-romaines, etc. Et quand tu regardes le penchant qu'a compris les pays asiatiques, mais notamment, je reviens sur le Japon, ou même les États-Unis, qui arrivent à voir par rapport à leur bande dessinée ou au manga, des postures et des étirements anatomiques qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous avons, mais qui collent à un style et qui permettent de développer un style absolument hallucinant avec des nouvelles dynamiques. Niveau BD, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de grosse évolution. Alors heureusement, on a le titre d'Angoulême sur lequel on a les Fauves d'Or, sur lequel on a un peu d'expérimentation graphique. Je trouve pas ça toujours heureux, mais on a au moins des pistes qui font avancer les choses. Mais je trouve que c'est la manière dont on forme les nouveaux artistes qui formatent pas mal leur façon de faire. Ouais. Alors qu'on devrait vraiment prendre, franchement prendre beaucoup plus de risques.
Super. Ben ouais, très intéressant. Malheureusement, on n'a pas toute l'après-midi. On pourrait passer toute l'après-midi à discuter de ça. Hein.
Facile.
On voulait juste aussi te parler. T'as annoncé fin janvier, je crois.
Ouais.
Un nouveau projet
de manière le jour de mon anniversaire,
c'est ça,
de tes 42 ans.
Ouais, exactement.
Parce que 42 la réponse à tout. Ouais,
exactement.
De manière un peu cryptique, oui, effectivement, tu as annoncé un projet nom de code Mecha Dotto.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire déjà des trucs un petit peu, ou est-ce que c'est encore un peu top secret?
Alors,
parce qu'on a trouvé un site avec une boule qui tourne comme
ouais.
ça.
Alors c'est pas complètement secret, dans le sens où il y avait un article de l'Acariat il y a une éternité, je sais plus quand, qui donnait déjà le nom de Mecha Dotto, et sur lequel on disait qu'on avait un projet avec Maëva et Christine de faire des choses ensemble. Ça a toujours été une envie qu'on bosse ensemble parce qu'on a la même
fibre.
Ouais, je sais pas, mais déjà Maëva a un talent dingue, et il y a toujours envie de bosser ensemble parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose à faire, quoi, à un moment.
Et quand tu dis Maëva, c'est Maëva da Silva.
Maëva da Silva, ouais. Et entre-temps, il y a eu énormément de travail, et Christine est décédée. Donc du coup, on a dû ça a attendu, j'attendais que ça mûrisse, tu vois. Et en fait, il y a un moment où quand je regarde le monde du jeu et les produits qui sortent, je m'ennuie un peu. Pas pour tout, mais j'en ai fait le constat hier d'ailleurs avec quelques auteurs et quelques personnes du monde du jeu, que on tourne en rond, en fait on est un peu sur les mêmes formules.
Oui, comme tu le disais, pour finalement les artistes, il y a une sorte de, voilà, il y a des formules, il y a de moins en moins d'innovation, de trucs très marquants, de trucs différents.
Ouais, mais parce que ça dépend ce qu'on attend d'innovation. Et dans le jeu de société, moi j'attends des interactions originales avec des gens. Moi, c'est le société, dans le jeu de société, que j'ai jamais caché, on en a déjà parlé. C'est toujours le société qui m'a intéressé dans le jeu de société, parce que sinon, je préfère jouer à un jeu vidéo. Et je trouve qu'on est en train un peu de perdre ça, dans le sens où, aujourd'hui, la facilité commerciale, c'est de proposer une feuille Excel devant soi et un simulacre d'interaction sociale en mettant un plateau central sur lequel on va pouvoir avoir l'illusion d'avoir un choix ou une interaction. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers le jeu enfant, c'est parce que je trouve que dans le jeu enfant, il y a beaucoup plus de liberté créative, et beaucoup plus de liberté tout court, en fait. On peut être force de proposition avec des choses vraiment originales. Et je le vois bien qu'il y a des auteurs qui font des tentatives, même des auteurs connus, hein, typiquement comme Renaud Faiduti, etc., qui font des tentatives de dire « Mais regardez, c'est drôle, c'est amusant et tout, mais... » ça ne correspond pas à cette espèce d'attente de base de joueurs qui doit être nourrie à ça. Et je peux l'entendre aussi que ça soit un plaisir pour certains. Ce n'est pas là où je trouvais mon plaisir à la base. Et ce plaisir de découverte, j'ai besoin de le garder parce que c'est aussi la flamme qui me permet de continuer à travailler intelligemment et de me nourrir pour Board Game Arena, Happy Baobab, etc. Donc l'idée était très simple, c'était de faire un projet ensemble. Et du coup, ça y est, j'ai enfin un petit peu l'opportunité de le faire. Je voulais aussi être sûr d'avoir fait tous les métiers dans le monde du jeu. Là, techniquement, il me manque un Kennerspiel pour faire un drop mic et aller faire autre chose, tu vois. Mais le but, oui, c'était de se dire...
Colt Express pour le Spiel, des clés magiques pour le,
ouais,
Kinderspiel,
pour le Kinderspiel,
il manque le Kenner.
C'est ça, il manque le Kenner. Et on est en train de voir comment on peut faire ça. mais ça, c'est cool aussi d'avoir des partenaires qui te poussent en avant. Ça, c'est vraiment bien. Et du coup, l'idée...
Donc, Mecha Dotto, ouais.
C'est... Donc, le coup, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit polyforme. Un peu à la manière des éditeurs indépendants qui parfois font des projets complètement fous. Là, l'idée, c'est, on sait déjà de base que ça risque de pas être rentable, mais l'idée, c'était aussi de limiter les risques au maximum en ayant une connaissance maximale du marché. Donc essayer de proposer vraiment des trucs originaux, mais sans se péter la gueule. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est surtout de tenter de nouvelles choses. Donc ça peut prendre la forme d'un jeu de société ou autre, etc. Et c'est justement parce que j'ai des influences très très fortes qui viennent d'Asie, donc du Japon, et aussi de l'Afrique, parce que c'est une part du... C'est un continent qui est souvent mésestimé au niveau de son approche graphique et de son apport global. Et du coup, je voulais un nom qui représente un peu ça. Donc du coup, c'est Mecha Dotto, parce que c'est Mecha comme maker. Maker est un peu robot aussi à la japonaise. Et Dotto qui vient de Ndoto, qui est le rêve en fait. Donc c'est un peu le
Dreamworks.
Oui, c'est en Swahili, exactement. Comme, oui, c'est ça, exactement. La langue du roi lion, comme utilisait Disney. Et c'était aussi... un clin d'œil à, au travail de, que j'avais fait avant, enfin voilà. Donc du coup c'est Mecha Dotto, et alors ça c'est un choix très malheureux. C'est un nom que j'adore, mais c'est un choix très malheureux parce que la plupart du temps quand je vais établir des factures, les gens pensent que c'est un garage automobile. mais le nom me plaît énormément.
Et donc on pourra voir les premiers projets de Mecha Dotto alors, à quelle échéance, tu sais déjà un petit peu?
Les projets sont déjà en cours. Okay. Là j'essaye d'établir les partenariats commerciaux pour être sûr. En fait le but il est très simple, c'est montrer quand on livre. C'est à dire je ne veux pas faire de teasing. Le seul teasing qu'il y a eu c'était pour mon anniversaire. Mais je ne veux rien montrer tant que rien n'est prêt. Il y a quelques personnes qui sont au courant un petit peu de ce qui se prépare derrière, mais je veux que le jour où ça soit prêt, ça sorte et ça soit le seul instant. J'ai pas envie de noyer les gens avec de l'information pour rien, etc. Donc pour l'instant, s'il y a une chose à retenir, c'est ben, à revenir bientôt là-dessus.
Okay.
S'il y a
des... Stay tuned, comme on dit.
Exactement. Tu parlais juste avant des gens qui sont curieux graphiquement. Si vous êtes curieux graphiquement et abonné à Plateau, allez jeter un œil au Plateau d'il y a 2 ans et au Plateau de cette année pour décembre. Il y a des gros indices.
Ok. On va aller faire le jeu de piste.
Ben, on arrive au bout de l'interview. Merci Yann.
Merci à vous.
Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ?
Guacamole ?
Okay, parfait. Ça marche. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.